Je vous propose qu'on passe à la conclusion d'Halima Zerougal et de Yannis Cancel. Juste avant qu'il commence, c'est important pour nous que vous remplissiez la fiche d'évaluation de la journée et que vous nous la rendiez en partant. Voilà.
Bien. J'espère que vous compatissez à ma tâche, qui est très difficile de conclure une journée qui ne peut pas être conclue. J'ai demandé de l'aide à mon collègue Yannis Cancel. Moi, je vais tenter de reprendre un petit peu les idées fortes de cette journée, un peu pour M. Le Borgne qui était absent ce matin. et je laisserai Yannis Cancel ouvrir peut-être un petit peu pour des perspectives futures. Qu'est-ce que j'ai compris de cette journée ? Moi, je suis psychiatre d'adultes. Ce que j'ai pu un petit peu comprendre, c'est que finalement, la catégorisation d'adolescents dits difficiles reste très difficile. Yannis Cancel avait commencé par nous donner une définition des psychiatres. La définition des psychiatres était une définition en négatif, puisque les psychiatres définissent les adolescents dits difficiles par ceux qui n'ont pas de troubles psychiatriques. Mais qui ont des troubles du comportement et qui ont des effets, dont la prise en charge a des effets sur les professionnels. Ensuite, Daniel de Rivoy et puis Patrick Alessian aussi nous ont proposé d'avoir que cette catégorie d'adolescents dits difficiles était très façonnée par notre regard d'adulte, notre regard professionnel, avec nos représentations professionnelles et je pense même nos représentations de citoyens. Avec des difficultés, comme le rappelait Patrick Alessian, d'appréhender ces adolescents dans leur temporalité développementale. Ce sont des êtres en devenir et on oublie souvent cette particularité. Ce que j'ai pu relever aussi, c'est que ce regard était aussi façonné par nos propres difficultés. Sans pour autant nier les difficultés de ces adolescents, il s'agit tout de même à arriver de décrypter ce qui relève des difficultés liées à nos organisations, à nos fonctionnements et ce qui relève de l'adolescent lui-même. J'ai été particulièrement sensible à ce qu'a dit Nicolas Georgieff ce matin en parlant de iatrogénie. Je suis très sensible à la question de la iatrogénie. En étant psychiatre adulte, je me demande souvent, j'essaie à chaque fois de me demander ce qui est de l'ordre de l'aide ou de la iatrogénie au long cours dans les prises en charge. Le cas clinique qui vous a été relaté tout à l'heure dans la recherche, Kevin, il a fait 19 structures. Je me dis que 19 structures, vous mettez n'importe quel adolescent, même qui n'a pas de... Celui-là, en plus, il a des carences éducatives, affectives majeures, mais imaginez 19 structures pour un adolescent. Peut-être qu'il faudrait étudier les enfants syriens pour voir ce que ça donne, mais... Donc, j'ai fait une petite parenthèse. Mais je crois que ces trajectoires chaotiques ne peuvent qu'avoir des effets au niveau de la santé mentale de ces jeunes et au niveau de leur trajectoire de vie. J'ai été aussi très étonnée par ce que vous disiez, Romane et Béatrice, sur la régulation par le clash. C'est-à-dire que d'une certaine façon, les adolescents, la seule façon qu'ils récupèrent un petit peu de leur capacité d'agir, c'est en faisant un clash, c'est de passer à l'acte. Et finalement, ils arrivent à influer, consciemment ou inconsciemment, leur trajectoire passe par la crise. J'étais pas complètement d'accord avec vous quand vous disiez que c'était finalement une bonne résolution de la trajectoire. À discuter. Ce regard donc sur ces adolescents dits difficiles a été complété par le regard du sociologue M. Mauger, qui est venu enrichir nos éclairages sur la fabrique et la sociogénèse de ces délinquances, avec donc des délinquants avec des trajectoires où les vulnérabilités se potentialisent. Il a parlé de manque de reconnaissance de la valeur. Je suis vraiment d'accord avec lui sur la question de la valeur de ces adolescents qui malheureusement souvent sont dévalorisés à un moment donné de leur vie, comme l'a dit Nicolas Georgieff, où la question des valeurs est très importante et c'est les moments des utopies, des idéaux, et cette question de la dévalorisation vraiment les aggrave et entraîne cet inexorable destin dont il nous a parlé ce matin, qui était assez déprimant mais peut-être un petit peu caricatural. Ces adolescents donc sont soumis à un défaut d'affiliation, à un défaut d'inscription sociale, à un défaut aussi d'historicité. Donc ça a été rappelé aussi ce matin. C'est les professionnels qui portent un peu les histoires, mais des bouts d'histoire. Lors de la recherche qu'on a faite, on vous a pas parlé, on a fait un dispositif expérimental où on a redemandé aux professionnels qui avaient, aux quelques, hein, parce qu'ils sont nombreux autour du cas Kevin, de revenir donc dans une instance qui n'était pas une instance de cas complexe, mais qui était une instance qui essayait de reprendre la trajectoire et où chacun essayait de ramener des choses de l'histoire de cette adolescence sans qu'il y ait d'enjeu institutionnel particulier. Donc on a fait une tentative un peu de dispositif expérimental. Encore un, on a dit qu'on en avait plein des dispositifs expérimentaux, mais il faut de la créativité dans des problématiques où la destructivité est importante. Et on a animé ça avec donc Bertrand Ravon, qui est sociologue, et moi-même. Donc avec, on essayait d'avoir un double regard comme ça, sociologique et un soignant de santé mentale. Donc cette histoire de défaut d'historicité et puis ces adolescents sont aussi surexposés à de l'adversité. J'ai bien apprécié le mot adversité dont a parlé M. Alessian. On en parle aussi pas mal en psychiatrie adulte, hein, de l'adversité sociale. Je crois que ça nous vient, nous, de la psychiatrie adulte, ça vient des anglo-saxons, qui essaient d'élaborer et théoriser sur comment le socius, comment une société, parce qu'elle peut produire, peut entraîner des troubles de santé mentale. Donc là, en l'occurrence, c'est les carences affectives, la précarité sociale, etc. Mais aussi la discrimination, je crois. Monsieur Moget en a parlé ce matin. C'est-à-dire lorsqu'on vient de groupes minoritaires non reconnus dans un groupe majoritaire, ça a des effets sur la reconnaissance de la valeur, comme on en a parlé tout à l'heure. On a aussi dit que ces adolescents étaient des êtres en devenir dans une crise et qui traversaient une crise identitaire en quête d'idéal. D'identité idéalisée, ça c'est M. Derivois qui en a parlé, ou identité radicalisée, qui prône aussi, qui fait un détour dans cette crise identitaire, un détour par le rejet de la société et des valeurs de la société. Et parfois, malheureusement, ce détour passe par la haine de la société dans le cas des adolescents radicalisés. Nicolas Georgieff nous a rappelé que l'adolescence était une rencontre entre un capital biologique génétique et un environnement, et que cet environnement, c'était la famille, la communauté, la société. Et j'ai apprécié que Daniel Derivois nous rappelle qu'il y avait aussi un métacadre qui était celui du monde et de la mondialisation. J'ai trouvé ça intéressant parce que je pense, enfin, je me suis dit finalement sur les adolescents radicalisés, il y avait quelque chose de la question de la mondialisation, il y avait quelque chose de cette proximité que permet Internet, les réseaux sociaux, qui donne une impression qui est assez fascinante et jouissive d'être, de tenir le monde, de faire partie d'un grand groupe qui est encore plus grand que la bande de quartier et que traîner dans le hall. Mais là, on est encore dans un métagroupe et que ça doit entraîner une forme de jouissance quand même et d'impression de contrôle. Et peut-être qu'il y a aussi la note addictive dont vous parliez, la note un peu frénétique. Voilà, nous avons abordé ensuite la question des parcours chaotiques malgré des volontés de coordination multiples. Il ne faut pas oublier que ces adolescents sont aussi beaucoup regardés et beaucoup sous les projecteurs. Et je me demande, moi, à chaque fois, quand les gens sont beaucoup regardés sous les projecteurs, ce que ça peut entraîner comme problématiques qui sont liées à ce regard très insistant, à cette examination, avec des filtres professionnels multiples. Donc, autre chose aussi, c'était que c'était des adolescents où beaucoup de professionnels interagissaient et que chacun avec son regard, et que parfois dans des situations extrêmement complexes, chacun, là on a parlé de la patate chaude, hein, chacun disait ben non, ça c'est pas pour moi, c'est de la psychiatrie. La psychiatrie dit c'est pas pour moi, c'est pour le social. Probablement que c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un a des comportements qui peuvent avoir un regard psychopathologique des psychiatres ou qui peuvent avoir une expression psychopathologique ou psychiatrique, ça ne veut pas dire qu'on règle le problème tout le problème par ailleurs. Je crois qu'on est dans un monde extrêmement complexe. Et je vais finir par ça. Peut-être que j'étais arrivée un peu déprimée, à vrai dire, avec tout ça. Mais peut-être que c'est un enjeu pour nous, finalement, de comment est-ce qu'on traite la complexité, comment est-ce qu'on traite des choses qui interagissent entre elles, des dimensions sociales, des dimensions politiques, parce que, par exemple, pour la radicalisation, des dimensions politiques, religieuses, mais aussi sociales, comment est-ce qu'on traite tout ça en étant dans des, dans des champs disciplinaires ou professionnels extrêmement différents. C'est un enjeu majeur, hein. Et je te laisse la parole maintenant.
Je te laisse finir. Anima m'avait clairement demandé de venir pour se sentir rassurée sur sa capacité à faire cette conclusion. Donc je pense que c'est fait. Elle a fait une très belle conclusion. Je vais en dire le moins possible. D'autant plus que nous sommes tous des anciens adolescents, parfois difficiles, mais nous n'avons plus la flexibilité cérébrale des adolescents. Donc je pense qu'on est tous saturés à la fin de cette journée. Beaucoup de choses ont été dites. Moi, je voulais souligner que dans cette journée, il y a eu une pluralité d'appartenances. Pluralité d'appartenance des personnes qui ont parlé, pluralité d'appartenance, je pense, de vous qui avez écouté, pluralité d'appartenance parce qu'on a le médico-social, la protection de l'enfance, la psychiatrie qui est représentée ici, on a la province et Paris, ce qui n'est pas toujours fréquent aussi. Et puis ce matin, on a eu la théorie, des expériences et des expérimentations cet après-midi. C'est vrai qu'en quittant cette journée, moi je pense que je vais rester un peu sur ma faim parce qu'on a parlé de plein de choses différentes et de plein de domaines différents, mais c'est justement un peu notre objet, les adolescents et en particulier les adolescents difficiles qui sont un peu difficiles à localiser, qui créent aussi cette faim. Et il me semble important pour rester sur sa faim mais pas partir avec un espèce de désespoir, parce que c'est vrai qu'on a parlé de situations désespérantes en fait, hein, à plein d'égards, et de la folie du système tout de même, on peut dire, on a souvent évoqué la folie de notre système ou vu la folie de notre système, notamment au sujet du jeune Kevin, qu'aujourd'hui nous avons évoqué la façon dont un certain nombre de problèmes collectifs peuvent être problématisés, notamment par des outils cliniques. C'est ce que j'ai essayé d'introduire un peu ce matin, et il me semble que ça a été un fil rouge de la journée. Et c'est vrai que les outils cliniques sont parfois un peu inadéquats pour répondre à des problèmes collectifs où il faut des solutions politiques. Et une des questions sur laquelle on va se quitter, mais pour laquelle malheureusement il n'y a pas de réponse, c'est qui s'occupe des adolescents difficiles ? À qui on peut, quand on a un adolescent difficile, à qui on peut l'adresser ? Donc malheureusement, on est tous un peu orphelins de quelqu'un à qui porter cette question, mais peut-être que cette question, avec la douleur qu'elle apporte, elle cheminera un peu en nous, et puis peut-être que dans les années à venir, de nouvelles formes de créativité émergeront pour continuer à répondre et accompagner les adolescents qui eux-mêmes sont tout le temps en mouvement. Merci pour votre attention et votre participation.
Voilà, je vous dis au revoir. Vous pouvez aller sur notre site pour Orsper Samdara pour avoir de nos nouvelles ou pour nous donner des vôtres. On organise deux journées par an, deux journées d'études par an. Voilà, vous serez conviés grâce à l'aide de la DGS et de la DGCS. Et je remercie tout particulièrement Monsieur Le Borne qui est là.